Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, alimentation générale. Cher Pierre Hiverna, bonjour.
Bonjour Caroline.
Chaque dimanche en fin d'émission, vous nous proposez la chronique La Cerise sur le gâteau. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler d'un nouveau label qui s'appelle Écotable.
À tout à l'heure, aux alentours de 12h25. Bonjour Natacha Trioux.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez la Madeleine II, le souvenir gustatif d'une personnalité. Qui donc avez-vous rencontré cette semaine?
Cette semaine, c'est le metteur en scène Alexis Michalik.
Alors à tout à l'heure, à 12h15. Quant à nous, nous allons parler de la loi Egalim. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La loi Egalim, c'est la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable. Elle a été promulguée le 1er novembre 2018. Issue des états généraux de l'alimentation, cette loi entend établir de nouvelles règles pour la chaîne alimentaire et rééquilibrer les relations commerciales entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs pour mettre fin à une guerre de prix mortifère pour toute la filière, dont pâtit aussi, in fine, naturellement, le consommateur. Qui sortira gagnant de ces nouvelles règles? Quel est le juste prix à payer pour notre alimentation pour que tous les acteurs de la chaîne alimentaire y trouvent leur compte? Comment mieux payer les agriculteurs sans baisser le pouvoir d'achat des consommateurs? C'était déjà la question au cœur des états généraux de l'alimentation, comme le rappelait le chef de l'État en octobre 2017.
Les états généraux de l'alimentation ont deux objectifs. Le premier, permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé, de permettre à tous dans la chaîne de valeur de vivre dignement. Et le second, de permettre à chacune et chacun d'avoir accès à une alimentation saine, durable, sûre.
Pour parler de cette loi Egalim, alimentation et agriculture, trois invités autour de la table aujourd'hui. Tout d'abord, par téléphone avec nous, Michel Raison. Bonjour monsieur.
Bonjour madame et bonjour à vous, les auditrices et les auditeurs de France Culture.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes sénateur LR de Haute-Saône, rapporteur du projet de loi au Sénat, vous-même ancien agriculteur de lait et de céréales. Et puis autour de la table, Pascale Hébel. Bonjour.
Bonjour.
Directrice du pôle consommation et entreprise au Crédoc, le centre de recherche pour l'observation des conditions de vie. Et Nicolas Giraud, bonjour.
Bonjour.
Éleveur de vaches laitières dans le Jura, vous êtes le secrétaire national de la Confédération paysanne. C'est alors ça. Une première question à tous les trois, peut-être celui qui saura répondre, où en est cette loi? Parce qu'il y a eu quelques cafouillages à la fin de l'année autour des ordonnances pour savoir si elles seraient finalement promulguées, entrées en vigueur ou pas. Il y en a deux qui sont concernées. Hein. Il y en a une qui prévoit d'encadrer les promotions, de les limiter à 34%, en quelque sorte, ce serait fini le 2 pour le prix d'un, mais en revanche, le 3 pour le prix de 2, c'est encore possible. Nicolas Giraud, est-ce que celle-ci est entrée en vigueur?
Elles sont a priori pas entrées en vigueur complètement, c'est-à-dire que ça devrait rentrer en vigueur au 1er février. Les négociations commerciales l'ont pourtant déjà commencé, mais après, bon, nous, dès le début, il nous semblait que c'était pas forcément les ordonnances, même si elles avaient été présentées comme les plus centrales, le relèvement du seuil de revente à perte, c'est pas ça qui allait redonner, dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, vivre du juste prix pour les paysannes et les paysans, c'est pas en redonnant de la valeur à la grande distribution qu'on allait nous vivre du juste prix. Il nous semblait qu'il y avait une ordonnance à mettre en avant plus rapidement, qu'aurait pu être le cœur de la loi, c'était l'ordonnance sur le prix abusivement bas, qui n'est pas encore sortie.
Non, mais qui ne devrait pas tarder.
Qui ne devrait pas tarder, hein. Qui est travaillée par Bercy, on a déjà eu plusieurs réunions, mais ça bloque beaucoup. Parce que ils ne veulent pas de prix administré, on l'entend bien, mais on veut avancer sur un prix abusivement bas. Donc la limite est très ténue, mais nous, il nous semblait vraiment que l'État devait prendre sa part là-dedans pour empêcher. Nous, c'était ce qu'on revendiquait avant même qu'il y ait ces états généraux de l'alimentation. C'était une loi sur le revenu paysan pour empêcher à nos acheteurs de nous acheter nos produits en dessous de nos coûts de revient. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'en est pas encore là.
Alors, vous êtes passé un petit peu vite, à mon sens, sur les deux précédentes ordonnances. D'abord, et je posais la question à Pascale Hébel, celle qui normalement est entrée en vigueur le 1er janvier, qui prévoit donc d'encadrer les promotions. Je répète, c'est fini le 2 pour le prix d'un, mais le 3 pour le prix de 2, ça c'est encore possible. Est-ce que ça ne risque pas de grever un peu plus le budget alimentation des consommateurs?
Oui, il y a déjà des analyses qui ont été faites sur ce sujet. C'est que ce qui va se passer, en effet, effet, ça va faire augmenter un peu le prix payé par le consommateur. Ça, c'est évident, puisque les promotions participaient à ce qu'au final, on paye moins cher. Et on sait que du coup, la distribution va faire ses promotions sur un autre secteur qui va être l'hygiène beauté, c'est sur le reste, en fait. Hein. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la réaction des consommateurs quand il y a des hausses de prix très fortes, ce qui a été le cas en 2007-2008, c'est qu'ils mangent moins. C'est comme quand le carburant augmente trop vite, on réduit sa consommation. Et c'est ce qui s'était passé en 2007-2008. Donc c'est parce que les prix des matières premières avaient beaucoup augmenté. On avait une hausse de 5% payée par les consommateurs. Et finalement, après, les consommateurs peuvent prendre d'autres habitudes alimentaires. Et là, c'est vrai que c'était depuis 2009, depuis la loi de modernisation économique, où finalement, on avait pu, le consommateur a payé moins cher, en fait. Hein, et c'est vrai. Et là, au contraire, il a plus consommé de produits alimentaires en volume. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même ce qu'on appelle une élasticité prix, qui est que quand les prix augmentent, on consomme moins, et que quand les prix baissent, on consomme plus en qualité.
Et on voit bien que la difficulté, c'est justement de tenir l'équilibre entre un juste prix pour les agriculteurs et un juste prix pour les consommateurs. Michel a raison. À nouveau, Nicolas Giraud évoquait cette deuxième ordonnance qui prévoit l'augmentation de 10% du seuil de revente à perte sur les denrées alimentaires. Pour parler clair, ça veut dire aucun produit alimentaire ne pourra être revendu à moins de 10% du prix auquel il a été acheté. Ça, c'est censé être en faveur des agriculteurs quand même.
C'est un bon dossier et qui, quand on le présente comme ça, on pourrait laisser croire que l'ensemble des produits agricoles vont augmenter de 10%. D'abord, une grande remarque générale, la grande distribution ne vend pas 100% des produits agricoles. Donc, il y a d'autres filières que la grande distribution. Donc, même si on règle quelques problèmes au niveau de la grande distribution, on ne règle pas non plus le prix payé chez le paysan. Et le juste prix, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il n'y a pas un paysan qui a le même prix de revient. Donc, c'est vraiment de l'enfumage de faire croire que le paysan va toucher beaucoup plus parce qu'on augmente le seuil de revente à perte de 10% qui ne concerne qu'un certain nombre de produits, et pas d'ailleurs forcément toute l'année. Ça fonctionnait un peu comme les promotions. Donc ça va ne absolument rien régler chez le paysan, et l'encadrement des promotions ne va hélas rien régler chez le paysan non plus. Parce que il faut pas croire que le peu qui va être amélioré va forcément directement revenir chez l'agriculteur. Et comme le disait à juste titre aussi Madame Hebel, l'agroalimentaire, les transformateurs des agriculteurs, l'aval des agriculteurs, avaient besoin aussi parfois de promotion pour écouler des produits. Et on sait que quand on baisse le prix, il y a une plus grande consommation. Et voilà. Donc c'est pas si simple que ça.
Oui, Nicolas Giraud, sur cette question de la relation entre l'agriculteur, le distributeur ou l'industriel et le consommateur, je me souviens du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, invité de France Culture il y a quelques semaines, qui disait vouloir réconcilier les agriculteurs et les consommateurs, comme si c'était les agriculteurs qui étaient fâchés avec les consommateurs. Est-ce que vous regrettez pas, vous, que l'État fasse pas peut-être plus pression sur les industriels pour fixer les prix?
Alors, fixer les prix, je ne sais pas, mais en tout cas qu'ils fassent pression sur les industriels, nous, c'était le gros nœud sur lequel on appuyait en amont de ces états généraux de l'alimentation, parce que on ne voulait pas, et c'est ce qui sort un petit peu aujourd'hui, que ce soit encore les deux maillons à l'extérieur qui pâtissent
donc,
de cette loi-là. Les
consommateurs
et les paysans d'un côté. C'est-à-dire que les paysans seront pas forcément plus payés, il n'y a aucune certitude avec cette loi aujourd'hui.
Elle ne change pas le revenu agricole.
Aujourd'hui, non, il n'y a aucune certitude que ça puisse changer le revenu des paysans. Et par contre, potentiellement, sur quelques produits, c'est là où je rejoins Michel Raison, l'augmentation du SRP, c'est du seuil de revente à perte, c'est uniquement sur les produits d'appel. Ils margeaient déjà beaucoup plus ailleurs, fruits et légumes, produits frais, ils margeaient régulièrement à 20-30% déjà les grandes surfaces. Donc c'est pas forcément dit qu'il y ait une remontée des prix, mais ils peuvent en profiter pour remonter. On n'est pas du tout à l'abri, que ce soit industriel ou grande surface, qu'ils avancent de manière vertueuse. C'est exactement ce qu'on a essayé d'avancer dans tous ces états généraux, que Stéphane Travert n'arrêtait pas de dire « responsabilisez-vous ».
C'était le ministre précédent.
Le ministre précédent de l'agriculture, c'était la responsabilisation des acteurs. On va se responsabiliser. Mais en même temps, quand il y a un loup dans une bergerie, on a beau lui demander d'être responsable, il n'est pas responsable. Il va bouffer les moutons et c'est tout. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les industriels, la grande surface, bouffent la valeur ajoutée sur le dos des paysans et ne sont pas prêts du tout à partager la valeur ajoutée. Et c'est pas la loi comme elle est écrite aujourd'hui qui va amener la moindre contrainte pour les y engager.
C'est vrai, Michel a raison, que vous étiez rapporteur du projet de loi au Sénat, mais que vous avez été assez critique. Et effectivement, vous rejoignez sur ce point Nicolas Giraud quand il dit que Stéphane Travert n'avait pas raison de dire que cette loi était au service de l'agriculture française. C'est bien ça? Vous êtes vous-même aussi,
oui,
vous n'en attendez
si
rien?
Je vais vous faire une sorte de résumé. J'ai certainement un petit désaccord d'idéologie avec mon compatriote franc-comtois.
Il sourit,
Nicolas
il
Giraud.
Sourit.
On a déjà échangé, c'est sur le fait que le politique n'a pratiquement pas de pouvoir sur le prix. Ou alors on est dans une économie complètement administrée. Donc faire une loi en faisant croire aux paysans qu'on va enfin lui payer au juste prix, comme l'a redit, je suis désolé, je ne veux pas être injurieux envers le président de la République, mais il a menti peut-être sans le vouloir, parce qu'on lui a écrit ça dans son discours. Mais les deux leviers dont dispose le politique, c'est les charges et la complexité administrative et la négociation de la politique agricole commune. Et d'ailleurs, en ce moment, le gouvernement travaille insuffisamment à Bruxelles pour prévoir la réforme de la politique agricole commune. Et sur les charges et la complexité administrative, même cette loi, d'ailleurs, dans sa deuxième partie, en remet une couche. Donc, arrêtons de surcharger et de surcomplexifier l'agriculture. Essayons, or c'est très difficile parce que là on est 29 pays pour négocier une politique agricole commune, je ne dis pas que la tâche est facile, mais elle n'est plus adaptée au système économique actuel de fluctuation des prix. Mais le levier sur le prix, le politique ne l'a pas. Et quand il met ça dans un discours, c'est un mensonge supplémentaire qui énerve le peuple agricole.
Nicolas Giraud.
Peut-être que le politique n'a pas la main sur le secteur économique, mais au travers de cette loi, de redonner encore plus de puissance au pouvoir économique en redonnant le pouvoir aux interprofessions où siègent les producteurs, les distributeurs, les transformateurs, l'ensemble de la chaîne, mais où la puissance économique des industriels ou des grandes surfaces fait que c'est eux qui dirigent réellement ces interprofessions-là, leur pouvoir de pression est bien plus important que le pouvoir des producteurs. De redonner encore plus de pouvoir à ces interprofessions, c'est encore faire signe d'un recul des politiques encore plus grand par rapport au pouvoir économique et leur laisser la main encore un peu plus. Donc peut-être que les politiques ne peuvent pas administrer les prix, mais ils peuvent essayer au moins de minimiser le pouvoir des puissances économiques pour que les relations commerciales soient un peu plus apaisées. Et juste une parenthèse, on a le 9 janvier, lors de nos vœux à la Confédération paysanne, on a remis un document au parquet national financier sur les comptes de Lactalis, qui est l'ogre par excellence du modèle agro-industriel français. Il faut savoir que entre l'année 2015 et 2016, ils ont fait remonter dans une filiale luxembourgeoise de Lactalis plus de 2 milliards d'euros en pleine crise laitière. 2 milliards d'euros qui sont remontés dans les capitaux propres d'une société qui ont été ensuite redistribués à la société BSA internationale, la maison mère de Lactalis.
Vous devez nous laisser, hein, Nicolas Giraud, puisque vous avez un train à prendre. Mais juste une dernière question avant de donner la parole à Pascal Hébel. Il se trouve qu'en ce moment, les négociations commerciales avec les industriels et les distributeurs, entre les producteurs et les industriels, ont débuté le 1er décembre, elles doivent s'achever fin février. Vous en êtes où, vous, en l'occurrence, Nicolas Giraud?
Alors, ce n'est pas des négociations entre les producteurs. Les producteurs négocient pas, c'est des négociations entre les industriels et les distributeurs.
Et les distributeurs.
Les producteurs n'ont pas leur mot à dire, j'allais dire.
C'est justement la question que j'allais vous poser. Comment ça marche?
Comment ça marche? Nous, on a du mal à y voir quelque chose, vu que on a essayé de mettre un petit peu de transparence dans l'état généraux, mais c'est le mot à bannir dans ces discussions-là. Donc, transparence chez les industriels ou transparence dans les grandes surfaces, on a du mal à avancer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les box de négociation? On a du mal à savoir ce qui se passe réellement, si des hausses sont réellement répercutées, si les indicateurs de coûts de production qui ont pu être avancés dans certaines interprofessions sont réellement pris en compte et par la grande distribution et par la transformation, parce que c'est pas le tout qu'il y ait des hausses qui se fassent entre grande distribution et transformation. Il faut ensuite que la transformation soit à même et capable de nous les répercuter à nous producteurs. Et c'est là où nous on a aussi une peur, c'est-à-dire que le pouvoir économique gère tout ça. Ils peuvent passer des hausses entre eux, et à quel moment donné on va être certain que le retour aux paysans est à hauteur de ce qui a pu être des efforts qui ont pu être faits par les uns et les autres.
On va demander à Pascal Hébel et à Michel Arraison ce qu'ils pensent de cela, d'autant qu'on a entendu qu'il y avait déjà eu un accord entre Bel et Intermarché et un autre entre Leclerc et Danone. Mais on va vous laisser partir, Nicolas Giraud, pour ne pas rater votre train. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Allez, c'est l'heure d'ailleurs de la Madeleine 2. Vous allez pouvoir partir en toute discrétion.
Moi, ce que je préfère, c'est le cordon bleu avec des tomates.
Des épinards.
Des pâtes.
Des légumes.
Des haricots.
Des tomates, carottes,
courgettes.
Natacha Triou, la Madeleine de aujourd'hui.
La Madeleine d'Alexis Michalik.
Hein, ah, en pleine actualité.
Il est, voilà, en pleine actualité, metteur en scène, acteur, auteur et depuis peu réalisateur. Alors, on lui doit de grands succès populaires au théâtre comme Le Porteur d'Histoire, hein, qui depuis 2012 continue de se jouer et de tourner. Et là, depuis mercredi, on peut voir sa première réalisation, le film Edmond, l'adaptation de l'une de ses pièces. Avec Alexis Michalik, on quitte la France, on traverse la Manche et on écoute sa Madeleine de très british.
Les Madeleines de Proust, pour moi, c'est la gastronomie britannique. Moi, j'ai grandi avec une double culture, ma mère étant britannique, et donc mes grands-parents vivaient à Londres, enfin en banlieue de Londres. Et j'y allais beaucoup étant gamin, et il y a beaucoup de saveurs qui sont liées à l'enfance qui viennent de l'Angleterre. Le thé à l'anglaise avec du lait, du sucre, le bun loaf qui était une sorte de brioche au raisin avec du beurre salé. Et puis évidemment, on y allait à tous les Noëls en famille pour célébrer Noël en Angleterre. Et puis le lendemain, en général, on mangeait les sandwichs avec les restes et une soupe à la tomate. Et moi, j'adorais cette soupe à la tomate. Vraiment, c'était hyper bon, quoi. Je la trouvais super sucrée, super simple. Et pendant des années, j'imaginais ma grand-mère en train de faire cette soupe jusqu'à ce que j'apprenne que c'était tout simplement de la soupe en conserve Heinz. Voilà, un truc un peu de base, hein, qui était très sucré, hein, sans doute. C'est pour ça que je l'aimais autant. Mais du coup, j'avais ce goût particulier. Et encore aujourd'hui, de temps en temps, je me retrouve face à cette soupe à la tomate qu'on fait pas en France. Hein. C'était un peu décevant d'apprendre que c'était industriel, mais c'est comme ça, il y a des petits souvenirs comme ça, il y en a plein, des petits trucs un peu british qu'à chaque fois qu'on allait là-bas, on ramenait les boîtes de baked beans en conserve, donc les haricots rouges, et puis des confiseries, des trucs au chocolat. Moi, ce que j'adorais, les Reese's Cups, c'était le truc le plus sucré qu'on pouvait imaginer, c'était du beurre de cacahuète entouré de chocolat. Donc c'était vraiment d'une violence sucrée terrible, calorique incroyable, mais c'était fabuleux quoi. Ah, et le fish and chips aussi, hein, qu'on avait évidemment acheté au fish and chips local et qu'on ramenait à la maison et qu'on mangeait dans les papiers journaux là, avec des frites et du poisson, c'est du cabillaud je crois, frit avec du vinaigre. C'est que des trucs un peu gras et c'est de la bouffe de pub, quoi. C'est ce qu'on mange dans le pub, c'est des trucs qui accompagnent la bière. Ça pue un peu, ça pue la sueur, mais c'est très bon, quoi. Enfin, c'est bon quand on a découvert ça enfant, quoi. C'est comme tout le monde. Et donc, il y a des choses typiquement britanniques que moi j'adore et qui n'ont aucun sens quand on est en France.
Ce qui a du sens en France, en tout cas, ce qui est sûr, c'est le prix à payer pour notre alimentation. Juste prix, juste rémunération pour les agriculteurs, que les distributeurs y trouvent leur compte et que le consommateur ne paye pas trop cher. On était précisément avec nos invités, Michel Raison, sénateur LR de Haute-Saône, rapporteur du projet de loi alimentation et agriculture au Sénat, et Pascale Hébel, directrice du pôle consommation et entreprise au Crédoc, sur cet enjeu des négociations commerciales qui ont commencé entre industriels et distributeurs et qui doivent s'achever fin février. Désormais, dit la loi, la construction du prix devrait partir du coût de production. Alors je vais peut-être me tourner vers vous, Michel Raison, pour que vous nous expliquiez très rapidement, comme vous savez très bien le faire en résumé, comment ça marche, cette construction du prix aujourd'hui, et comment ça va marcher après que cette loi est entrée en vigueur sur la construction du prix.
Alors à mon avis, ça va marcher de la même façon qu'avant, pour la bonne raison que ce qui a changé entre l'agriculteur et son premier acheteur. Et comme l'a dit M. Giraud tout à l'heure, le premier acheteur, ce n'est pas la grande distribution. Si on prend du lait, c'est le transformateur de lait. Et donc, avant la loi, le contrat, c'est le transformateur qui le proposait à l'agriculteur. Aujourd'hui, c'est l'agriculteur qui va le proposer au transformateur. Quand je dis l'agriculteur,
il gagne du pouvoir,
c'est une association
donc
d'agriculteurs, hein, ce n'est pas individuel, évidemment.
Ça veut dire quand même qu'il gagne du pouvoir.
Alors, en apparence, mais c'est que de l'apparence. Quand vous êtes chacun d'un côté de la table pour négocier un contrat, que ce soit Paul qui commence la discussion ou Pierre, la fin, elle se termine de la même façon, avec un accord ou un désaccord. Mais si Pierre est plus fort que Paul, même s'il parle en deuxième, c'est quand même lui qui va l'emporter. Et il va l'emporter avec le cours du produit. Et ce coup-là, faut se mettre à la place, parce que, il citait Lactalis tout à l'heure, tout le monde a toujours Lactalis dans le nez. Lactalis paye pas plus mal que la grosse coopérative française Sodia, et c'est une coopérative, c'est les agriculteurs. Et il y a des petites coopératives même qui parfois payent moins, il y en a qui payent plus, il y en a en fonction de comment elle est gérée, en fonction de leur débouché, de leur type de produit. Et, mais de toute façon, il y a un cours du produit. Et le cours du produit, ben, c'est pas eux qui peuvent le changer. Donc c'est souvent fait en fonction du cours et de la façon dont ils peuvent valoriser. Moi, je connais des entreprises honnêtes, oh, c'est énorme, c'est très particulier, Lactalis, mais des entreprises très honnêtes, ils donnent que ce qu'ils peuvent donner. Moi, j'ai un gros transformateur de lait de 100 millions de litres de lait. Enfin, ça, c'est petit par rapport à Lactalis. C'est quelqu'un de très honnête. Il donne ce qu'il peut à ses producteurs, à ses salariés, puis il se fait son salaire à lui, c'est tout. Mais il peut pas leur donner plus qu'il ne vend les produits. Donc le contrat ne changera rien, ça changera rien.
Et alors, à quel moment interviennent les consommateurs, Pascal et Belle, et est-ce qu'ils ont du pouvoir aujourd'hui, les consommateurs ?
Oui, moi je crois qu'en effet, l'économie, que ça se fait par le marché, que les acteurs, il y a des contre-pouvoirs, et c'est selon le nombre qu'ils sont que le prix va se former. Et aujourd'hui, ce qui fait que celui qui vend directement au consommateur va avoir intérêt à changer de comportement, c'est par rapport à son image. Donc quand il y a des accords faits par Carrefour ou par
Intermarché, Leclerc, Danone,
etc., c'est qu'ils le font pour attirer plus de consommateurs, et ils font ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Il faut qu'ils changent leur image en disant « moi, je redistribue plus à l'agriculteur ». Et c'est vrai que ces crises qu'il y a eu, le fait qu'il y ait eu des débats avec la loi alimentation, ont fait qu'en effet, aujourd'hui, le citoyen français situe en premier l'agriculteur comme acteur en qui ils ont le plus confiance quand ils mangent. Il était que quatrième, l'agriculteur. C'est que la sympathie des citoyens français est très forte vis-à-vis de l'éleveur, vis-à-vis de l'agriculteur. Et donc, il faut que... c'est le consommateur qui va faire ses choix. Il y a une marque qui est C'est qui le patron, qui affiche combien il donne aux produits.
Ah, Pierre-Yves Arnaud, nous en a parlé déjà.
Et donc, qui marche bien. Mais évidemment, pas tous les consommateurs vont pouvoir payer plus cher leur litre de lait et vont vouloir afficher leurs valeurs, leurs convictions en disant « moi, je veux que l'agriculteur gagne plus ». Il y a une partie de la population française qui, en effet, est prête à le faire. Donc, c'est peut-être avec cet acteur-là que l'agriculteur doit pouvoir influencer les choix qui sont faits. Et si la marque a une bonne image et rémunère bien, c'est honnête, hein, comme on vient d'utiliser, Monsieur Raison, ce terme-là. Si l'acteur, qui est plutôt en effet le transformateur, c'est plutôt lui qui négocie directement avec l'agriculteur, eh bien en effet, le consommateur ira acheter cette marque plutôt qu'une autre.
Bon, finalement, c'est une question de bonne volonté et de bonne foi de tout le monde et de tous les acteurs en question, Michel Raison, non ? Qu'est-ce qui se passera d'ailleurs si les uns et les autres ne se mettent pas d'accord sur le juste prix ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues ?
Oui, mais tout. Alors, ça, je l'ai toujours dit. Donc, la loi n'a jamais réglé les problèmes moraux. La loi, elle permet aux acteurs immoraux de la contourner, même. C'est pire que ça. Je ne veux pas citer un nom célèbre dans la grande distribution. J'avais une expression, puisque j'étais spécialisé à l'Assemblée nationale quand j'étais député sur ce dossier-là. Je disais, on n'a pas fini de lever la main pour voter le texte, que M. X de la grande distribution a déjà trouvé la solution pour contourner ce qu'on venait de voter. Mais ce que je voudrais ajouter à ce que vient de dire Mme Ebel, c'est que, par exemple, on sait qu'il y a eu des contrats de fait avec Intermarché, Carrefour, des contrats plutôt pas mauvais sur du lait. Sauf que quand une grosse entreprise comme Sodial a réussi, je ne connais pas en détail tous leurs contrats, à passer quelques contrats comme ça, ça représente un petit pourcentage de toute leur transformation de lait. Donc, quand elle va rémunérer son producteur, ça va intervenir à... C'est toujours ça, vous allez me dire, mais à quelques pourcents sur le prix final du lait. C'est pas parce qu'elle aura valorisé à 420 euros de la tonne, par exemple, 10% de son lait, qu'elle va pouvoir payer 420 euros de la tonne, 100% du lait qu'elle a acheté aux agriculteurs, parce qu'il y a d'autres marchés, parce qu'elle fait de la poudre, elle fait de l'export, elle fait du camembert, elle fait de l'emmental français, de l'emmental comme si, et tout ne sera pas valorisé comme ça, et là c'est plus un problème moral, c'est un problème technique et de marché. Et donc, ce coup-là, on ne pourra pas le transformer.
Didier Guillaume, Pascal Ebel, et on en terminera là, Didier Guillaume, sur France Info. Donc, le ministre disait le 10 décembre dernier, si tout le monde joue le jeu, il n'y aura pas d'augmentation des prix dans les grandes surfaces. Est-ce qu'il faut le croire ? Est-ce qu'il faut espérer ? Est-ce qu'il faut croiser les doigts sur que ces négociations, qu'elles se passent bien pour tout le monde ?
Oui, il ne faut pas forcément croiser les doigts. C'est peut-être au consommateur, au citoyen, à l'auditeur qui nous écoute, lui, aller acheter le produit, quand c'est du lait en brique, qui soit celui où on assure d'une une juste rémunération. Et en effet, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que les consommateurs, le prix du compté au kilo, c'est 20 euros le litre, en fait, qui est payé. Donc il y a des produits qui, en effet, rapportent plus, qui sont mieux valorisés.
Donc responsabilité générale.
Responsabilité générale aux auditeurs qui nous écoutent.
Exactement. Merci beaucoup à vous, Pascal Hébel. Merci, Michel Raison, d'avoir participé à cette émission. Mais elle n'est pas finie. Restez avec nous pour écouter la cerise sur le gâteau. Et vous nous parlez d'un label, le label Écotable, Pierre.
Eh bien oui, on va enchaîner sur une initiative justement citoyenne et de consommateurs, parce que je voudrais vous parler d'une initiative qui fleure bon l'évidence, mais qui n'a pas encore été vraiment mise en œuvre, un logo fiable pour la qualité de la nourriture dans les restaurants. Vous me direz que depuis 2014, il en existe déjà un, initié à l'époque par le secrétariat d'État à l'artisanat et intitulé « Fait maison », avec un pictogramme composé d'une casserole surmontée d'un toit destiné à être apposé sur la devanture de l'établissement et ou sur les menus. Mais voilà un bon moment que j'observe régulièrement toutes sortes de restaurants, et mon étude empirique m'amène à conclure qu'après plus de 4 ans, cette initiative gouvernementale censée trier le bon grain de livret est un échec. Pourtant, on ne peut pas dire que remettre de l'artisanat dans nos assiettes pour valoriser le métier de cuisinier en le différenciant de l'assembleur qui ne fait que composer ses plats avec des produits industriels ne soit pas louable. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien parce que la notion de « fait maison », trop vague, qui inclut du surgelé comme de la viande hachée pour du tartare venu d'on ne sait d'où, ne fait pas grand sens et que la confiance du client, donc du consommateur, n'a finalement jamais été au rendez-vous. Et c'est donc demain, à Paris, et un peu plus tard en région, qu'est lancé le label Écotable, une aventure initiée essentiellement par des femmes dans le cadre du mouvement Women for Climate, dont la maire de Paris, Anne Hidalgo, est l'une des ferventes militantes. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abord de ne pas imposer les choses par la voie gouvernementale, mais de redonner le pouvoir à celui qui paye son repas, on y revient, c'est-à-dire le même consommateur qui montre de plus en plus son attention à des critères et à des pratiques éco-responsables en faisant ses courses quotidiennes.
Oui, sauf que vous parlez quand même de critères, que ces critères sont extrêmement nombreux et qu'on voit pas bien comment un tel système peut être à la fois mis en œuvre, efficace et s'étendre.
Bien Caroline, c'est tout l'art de cette association, car cette fois-ci il s'agit d'un procès associatif, je le répète, que d'avoir inventé à partir de critères compliqués des typologies simples. Pour les fondateurs d'Écotable, on doit passer le restaurant à la moulinette de paramètres clés, dont la consommation en eau, la consommation en énergie, la part du bio, le tri et le recyclage des déchets, la valorisation des invendus et l'approvisionnement en circuit court. L'association s'est dotée des outils nécessaires pour produire elle-même avec le restaurateur tous les bilans et fait également du conseil pour lui permettre d'améliorer son score. Ainsi, pour être concret, pour être référencé et avoir un écotable, on peut en obtenir jusqu'à 3, il faut au moins réunir les 6 critères suivants. 15% des produits doivent être issus d'une agriculture bio et ou locale, le tri sélectif doit être systématique, les œufs de poule élevés en cage doivent être bannis, la carte doit changer en fonction des saisons, le menu doit comporter au moins un plat végétarien, et enfin, le gaspillage doit être limité en proposant des doggy bags. Entendons-nous bien, Écotable ne prétend à aucune légitimité pour juger du talent du chef, mais comme le souligne André Marcelli, l'un des premiers référencés, je cite, « Notre démarche écologique nous structure au quotidien et ce cadre permet de développer la créativité des cuisiniers. » Donc dès demain, souhaitons bon vent à Écotable.
Oui, et puis d'ailleurs, si vous n'avez pas pu noter ou retenir les 6 critères dont vous nous avez parlé pour avoir le label Écotable, bien entendu, toute la chronique de Pierre Hébernin est à retrouver doublement sur le site des Bonnes Choses et sur le site d'Alimentation Générale. Les bonnes choses se poursuivent en réécouté en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicienne du jour, Élise Leu, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.